RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. C'est la rentrée des livres. Ils nous déplacent, ils nous transportent, ils nous font vivre ailleurs. Alors la nature est puissante et la force du destin sont au cœur des deux livres que nous allons découvrir aujourd'hui. Des traditions espagnoles jusqu'aux fleuves mythiques, c'est la puissance du réel et de l'imaginaire qui sont à l'œuvre. Carole Martinez nous entraîne dans l'histoire fascinante d'une lignée de femmes courageuses, cernées par la mort et héritières d'un destin. Reste-t-on prisonnier de ceux qui nous ont précédés ? Comment dompter cette puissance en se trouver enfin libre ? Les Roses Pourpres est publié chez Gallimard. Il y a 30 ans, Eddy Harris a écrit ce récit. Il avait à peine 30 ans quand il s'est lancé dans la descente du fleuve Mississippi en canoë. Une épopée racontée avec humour et simplicité par un homme qui cherche alors un sens à sa vie. Aujourd'hui, l'a-t-il trouvé ? Il reste à jamais le fils du fleuve, Mississippi Solo, est publié chez Liana Levy.
Au pied de la lettre, Christophe Hénin.
Bonjour Carole Martinez.
Bonjour Christophe Hénin.
Les roses pourpres, c'est certainement...
Fauve, c'est drôle. C'est la rose pourpre du Caire que vous mettez en avant. Oui, c'est drôle, mais vous n'êtes pas le seul. Les roses pourpres, c'est joli d'ailleurs, mais c'est les roses fauves.
Les roses fauves, effectivement. En plus, c'est dans le livre très présent. Les roses fauves, c'est certainement l'un des plus beaux romans de cette rentrée. Vous nous racontez une histoire de femme, un livre puissant de tradition, d'imaginaire. Est-ce un roman féministe ?
Féminin, sans doute. Sans doute aussi. J'ai beaucoup d'amis féministes qui, au début, enfin avant que j'écrive, enfin, en tout cas avant que je publie, me disaient que moi, j'étais pas féministe parce que je considérais les hommes comme des petites choses fragiles. Et j'ai tendance à avoir en la femme un immense fleuve pour me trouver la relation avec Mississippi Solo et quelque chose de très puissant. Donc féministe parce que sans doute je parle de cette puissance-là, de ces silences, de tout ce qu'on peut imaginer autour des femmes parce que finalement elles ont dans le passé assez peu écrit. Et voilà, donc féministe dans le sens où je m'intéresse aux femmes et j'aime les faire parler, j'aime les modeler, j'aime les sculpter, j'aime les mettre au centre. J'ai un copain dernièrement qui m'a dit « Mais quand est-ce que tu écris un roman avec un homme au centre ?» Mais en fait, il y en a déjà tellement.
Ils sont là, ils sont quand même présents. Hein,
ah, mais ils sont là. Les hommes, ils sont là, il n'est pas question de les éliminer, pas du tout, pas du tout. Au contraire, mais en général, ils naissent de mon personnage féminin, qui est là en premier.
Bonjour Eddy Harris.
Bonjour Christophe.
On va vous suivre dans cette descente extraordinaire des quelques 4000 km du Mississippi. Alors, vous le dites au tout début, hein, vous êtes parti à l'aventure sans être vraiment préparé. Vous avez refait le parcours 30 ans après.
Oui.
Toujours fasciné.
Toujours fasciné. Toujours âme de fleuve. Toujours amoureux de Mississippi, du fleuve Mississippi par l'État. Toujours à la quête de savoir ce que c'est les États-Unis en fait. Et c'est en traversant le pays par le Mississippi, on a une belle tranche du pays.
Beaucoup d'États qui sont traversés, 31 États, c'est ça ?
Non, ça passe 10 États, ça passe 10 États, mais ça draine 31 États et deux provinces canadiennes.
Vous l'avez fait donc, c'est le récit, hein, il y a 30 ans,
oui.
Et puis vous l'avez refait là à l'occasion de la sortie du livre à nouveau. Ça a beaucoup changé ?
Oui et non. Je pense que c'est l'écrivain qui a changé, le voyageur qui a changé pas mal. Pas seulement une question d'âge, mais une question de... Bon, Mississippi Solo est écrit avec une certaine naïveté. C'est très simple. Et je pense que le nouveau livre que je suis en train d'écrire, c'est un peu plus complexe. Et je pense que c'est ma vision des choses qui a changé.
Peut-être aussi le monde, on verra. Ouais, le monde est peut-être plus compliqué aussi.
Mais aussi le fleuve, par exemple, physiquement, le fleuve est plus propre qu'il y a 30 ans.
Non.
Si. Et, mais le reste, je ne sais pas si le, on peut définir ce qui a changé depuis.
Les Roses Fauves, l'histoire, une romancière qui vous ressemble un peu, Carole Martinez, qui part en Bretagne en quête d'inspiration. Elle fait la connaissance de Lola, la postière du village, qui va lui faire découvrir une étrange tradition espagnole. Racontez-nous.
Elle part pour écrire autour de Barbe Bleue. Elle est un peu fâchée avec elle-même, en fait. Elle sait pas trop. Elle veut sortir de Paris. Elle veut vivre ailleurs, autre chose. Donc elle essaye de s'échapper pour la première fois pour écrire. Et elle a écrit un roman qui s'appelle Le cœur cousu, comme moi.
Tiens. premier roman que j'ai écrit. Immense succès.
Ouais,
c'était
un beau succès. Et donc en fait, elle a détesté le titre qui a été donné à son roman, parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai choisi le titre. Au début, je l'ai détesté. Et elle arrive dans ce village parce qu'elle a été comme appelée par une carte postale. Elle a vu une femme qui marchait dans un paysage en noir et blanc, sans doute au début du 20e. Il y avait une poste, une église, et elle a été appelée. Elle était convaincue que cette femme était boiteuse. Et j'aime bien, moi, quand il y a comme ça une sorte de nécessité tout d'un coup à écrire et qu'on a l'impression que ça mène quelque part. C'est bizarre, hein, mais voilà. Écrire ce qui nous appelle. Écrire quelque chose qui est comme une sorte de coïncidence incroyable, et pof, tout d'un coup, il sait, c'est sûr, il faut l'écrire, il faut y aller. Donc elle y va, et là, dans la poste, il y a une jeune femme qui est boiteuse, qui s'appelle Lola, Dolores, qui vient d'Espagne, qui est plutôt timide, vraiment. Et il y a plein de femmes qui parlent, de vieilles femmes qui s'installent là, à la poste, avec leurs petites chaises et tout, machin, et qui parlent entre elles, et elle les écoute même pas,
Elle est un peu fermée, cette femme.
Oui, elle est pas fermée, elle est cadenassée, elle est verrouillée, elle est vraiment. Et elle n'ose pas. Et tout à coup, elle voit cette romancière qui a écrit, parce que les femmes qui parlent beaucoup le disent, un roman qui s'appelle Le cœur cousu. Et là, elle prend son courage à deux mains et elle invite, pour la première fois vraiment, une étrangère, quelqu'un qu'elle connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle l'invite à dîner. Et la romancière qui a vu que cette femme boitait et qui est convaincue que dans cette carte postale bien plus ancienne, elle a été appelée par une boiteuse, là, elle se dit c'est fou quoi, il faut que j'y aille, quelle coïncidence. Et quand elle arrive, elle est invitée à manger chez cette femme qui vraiment n'a pas l'habitude, ni de boire du vin, ni de rien quoi. Et cette femme lui dit, écoutez, voilà, je lis jamais de roman, j'aime pas ça, j'aime que les biographies, j'aime que les histoires vraies, donc j'ai jamais lu votre roman, hein, bien sûr, mais ça s'appelle Le cœur cousu. Et moi, je vais vous dire qu'il y a quelque chose dans mon armoire là-haut, il y a quelque chose, et je vais vous raconter, c'est la tradition.
C'est quasiment un secret qu'elle révèle.
Qu'elle révèle vraiment dans sa chambre à coucher, elle a une armoire en bois qui elle-même est un héritage, mais côté paternel. Et dans cette armoire en bois, il y a 5 cœurs qui ont été brodés et dans lesquels les femmes anciennes de sa lignée ont mis des tas de petits bouts de papier qui sont comme des secrets, des confidences. Et elle dit, voilà, de là d'où je viens, enfin d'où viennent mes aïeuls en Espagne, c'était une tradition. Au moment de mourir, ou quand on sentait qu'on était malade ou trop vieille, on brodait ce petit cœur, et dedans on mettait plein de bouts de papier qui étaient nos secrets, notre vie, enfin, voilà, tout ce qu'on n'a jamais dit. Et à notre mort, c'est notre fille aînée qui en hérite. Alors elle-même, elle n'a pas de fille, hein. C'est notre fille aînée qui en hérite, mais avec interdiction absolue de l'ouvrir, sinon malédiction. Et la romancière lui dit, mais c'est pas possible, vous avez des cœurs comme ça, toute votre lignée, tous les secrets de votre lignée dans votre armoire là-haut, et vous ouvrez pas.
C'est trop fort pour une romancière.
Et ben c'est trop fort, c'est pas possible. La romancière, immédiatement, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est d'éventrer les cœurs, et c'est d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et Lola la conduit dans sa chambre, lui ouvre l'armoire, elle voit les cœurs, et c'est pas possible pour elle. C'est une malédiction d'aller regarder dedans. La seule chose, c'est qu'il y a un des cœurs anciens, qui a été tellement usé qu'en fait, il est éventré, justement, et que les bouts de papier sont là, sur l'étagère. Et donc, ils attendent d'être lus.
C'est le cœur d'Inès.
Dolores.
Dolores, qui est dans cette lignée et qui, petit à petit, va livrer ses secrets.
Alors, oui, parce que forcément, même si Lola veut pas, elle attend quand même quelque chose de cette romancière en l'amenant là. Elle-même ne parle pas espagnol. La romancière parle espagnol. Et donc, lui propose qu'on mette ces petits bouts de papier dans l'ordre. Et puis que, eh ben, qu'on y aille, quoi. Qu'on entre dans ce roman d'une vie ou dans, parce que, en même temps, elle se pose la question. Elles se disent d'ailleurs toutes les deux, mais qu'est-ce qu'on écrit comme ça quand on est au seuil de la mort? Qu'est-ce qu'on écrit sur soi? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie, quoi? Est-ce qu'on écrit des souvenirs réels? Est-ce qu'on se souvient d'ailleurs vraiment, parce que et Diaris le dit aussi, il faut faire attention parce qu'on bricole tout de suite, on déforme tout de suite ses souvenirs, donc il faut les écrire pour pas les changer. Donc de quoi est-ce qu'on se souvient à ce moment-là? Est-ce qu'on a envie de s'écrire une belle histoire au moment où on sait qu'on va mourir pour être bien comme une berceuse, quelque chose qui rend notre vie cohérente? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, c'est des petits bouts de papier, donc ça a quelque chose d'extrêmement fragmenté. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les femmes se demande. Et puis finalement, elles vont entrer ensemble dans la vie d'Inès Dolores.
D'autant plus que c'est quand même une vie particulièrement lourde, enfin, avec des événements terribles dans cette existence.
Alors, lourde, éclatante, merveilleuse surtout. Mmh. Merveilleuse, puisqu'Inès Dolores, en fait, va raconter sa vie où... On ne sait pas, parce que du coup, Lola, la postière, va dire « mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est forcément une fiction, ça peut pas être ». Elle va raconter, Inès Dolores raconte qu'elle a été élevée par un jardin. Donc, ça commence de façon assez incroyable. Les premiers numérotés, enfin, il y a quelques bouts de papier, enfin, un certain nombre de petits bouts de papier qui sont numérotés. Donc, elles arrivent à les lire dans l'ordre. Donc, ça commence par, voilà, j'ai été élevée par un jardin. Je suis née dans un jardin. C'est une jeune femme qui n'est pas sortie d'un jardin, qui a été vraiment, qui a passé
cloîtrée
dans un magnifique jardin pendant jusqu'à ses 16 ans. Et qui a découvert le monde puisqu'elle n'y avait pas mis un pied, elle était comme une jeune femme inconnue, personne ne connaissait sa présence, personne ne savait qu'elle était là. Et elle a été lâchée dans le monde à 16 ans.
Et donc, elle découvre le monde et l'amour aussi.
Elle découvre le monde, elle découvre le désir avant de découvrir le monde d'ailleurs, et c'est par le désir qu'elle va partir et qu'elle va découvrir le monde. Parce que dans ce cœur, avec tous ces petits bouts de papier de cette vie d'Inès Dolores, la postière, Lola, c'est le diminutif pour Dolores. Donc Lola s'appelle comme son ancêtre, Dolores. Et elle découvre les deux, qu'il y a non seulement ces petits bouts de papier, mais il y a un plus petit cœur en lin. Et dans le petit cœur, il y a des graines. Et au début, elles ne savent rien de l'histoire d'Inès Dolores. Donc elles regardent juste... Et Lola tripote ce petit cœur comme ça. Elle le tripote parce qu'elle est jardinière. Sa passion, c'est le jardin. La seule chose qui vraiment... La contente, mais absolument, et dans l'endroit où elle est tellement bien, et il lui semble qu'elle a besoin de rien d'autre, c'est son jardin. Elle vit au-dessus de sa poste, et à l'arrière, il y a son petit jardin.
C'est son univers.
Et c'est son monde, c'est son univers. Elle adore les roses en particulier, et elle est certaine que là-dedans, il y a des graines. Ce qu'elle sent, c'est des graines. Et la jardinière est extrêmement émue de savoir que son ancêtre a vécu toutes ses premières années dans un jardin, et qu'en plus, parmi les morceaux, parmi les bribes, les fragments de sa vie, son ancêtre a placé ses graines. Donc voilà, et c'est des graines, des roses fauves. Mais ça,
voilà.
Je peux pas...
On va pas tout raconter non
on
plus,
va
mais
pas
c'est,
tout raconter.
Ces roses fauves, elles ont cette importance aussi d'être oui, d'être d'une forme de générosité, de puissance, de désir. Elle symbolise beaucoup de choses.
Bah, les roses, en lisant l'histoire de, enfin les roses fauves, en lisant l'histoire de l'ancêtre, donc d'Inès Dolorès, on se rend compte qu'en fait elle pousse à mesure que la jeune Inès Dolorès, qui est toute seule avec son père dans ce jardin, à mesure qu'elle découvre le désir. Et en fait, il y a un jeune gitan qui passe souvent devant leur maison, devant le magnifique jardin, et chante. Et plus ce jeune homme passe en chantant, et plus elle se découvre désirante, quoi. Elle se découvre, et plus elle découvre ce qu'elle est, son corps et tout. Et plus les roses poussent dans le jardin. Mais des roses absolument monstrueuses. Des roses dont, d'ailleurs, le père d'Inès Dolorès ne supporte pas le parfum de ces roses. C'est un parfum qui est tellement
envahissant,
énorme. Les roses finissent par tout dévorer, par dévorer le jardin, par dévorer les chiens, par dévorer... C'est des roses un peu surhumaines. Enfin, surhumaines, évidemment. Elles sont pas humaines, mais un peu surnaturelles. Et même, elles abattent les murs. C'est les roses qui vont aussi lui permettre de s'échapper.
Les roses sont quasiment un personnage, hein. Vous dites, elles semblent douées de mouvements et se défendent à coups de griffes comme des bêtes.
Bah c'est des roses ronces. Moi, je me bats beaucoup contre les ronces, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce que je trouve que c'est une force, justement. C'est comme des tentacules, et puis j'adore la confiture de mur, enfin la gelée de mur, j'adore en faire, j'adore. Mais je me bats contre les ronces. Le monde végétal est d'une telle puissance que j'avais vraiment...
C'est pour ça que vous êtes invité en même temps que Mississippi, cette puissance de la nature.
Mais c'est la puissance, en fait, là, dans un jardin. C'est-à-dire que cette jeune femme, Lola, la postière, elle veut que tout soit bien droit, que tout soit au cordeau, que tout soit
maîtrisé,
épousté, parfait. Mais depuis toujours, elle réserve un petit coin aux ronces, quand même. Et c'est vrai que sa vie, son jardin, vont être bouleversés par l'histoire de son ancêtre. Absolument bouleversés. Elle a besoin de la romancière pour ça. Elle ne s'autorise...
Pour l'accompagner.
Oui, parce qu'elle, elle s'autorise rien. Elle ne s'autorise même pas la rêvasserie. Elle ne s'autorise pas à se rêver. Mmh. Et la romancière, finalement, va l'aider à se romancer, à s'offrir le désir, les possibilités, à se dégager de tout ce que son père, qui était un personnage assez difficile, a pu inscrire en elle. Et donc, en fait, grâce à la force des roses fauves, du désir, de l'histoire de son ancêtre, grâce à la révélation des secrets, grâce à la romancière, où on ne sait même plus parfois si la romancière invente ce qu'elle est en train de lire sur Inès Dolorès en traduisant à vue, ou si c'est vraiment ça.
Parce qu'à la fois, c'est un roman, c'est un roman de libération pour cette femme, mais il y a aussi tout un héritage, il y a une malédiction des femmes. On ne va pas tout révéler non plus, mais il y a quelque chose de ça, d'un passé lourd.
Parce que ces roses, c'est à la fois Eros et Thanatos, donc c'est à la fois le désir est le désir amoureux, le désir charnel et la mort.
Très présente.
Et donc en fait, il y a un lien et c'est vrai que dès le début, en fait, son jardin à Lola, donc derrière la poste, il est fermé par des murs, il est clos de murs, et derrière les murs, il y a le cimetière du village. Et ça commence comme ça par une faille dans le mur du cimetière, et ça commence par Lola dans son jardin qui est contente, qui ne rêve rien, qui n'espère rien, qui est contente, qui jardine, qui a rien dans son portefeuille à part des photos de ses fleurs et de ses radis, qui a pas d'amoureux, pas d'enfants, qui est contente. Mais tout d'un coup, par cette petite faille, il y a un petit courant d'air froid qui passe et qui commence à la gêner, à la bousculer, à l'interroger, heureuse, mais vraiment Et puis le courant d'air comme ça qui vient du cimetière, qui vient la bouscule vraiment, la renverse. Et c'est ce courant d'air-là qui va comme éventrer le cœur dans l'armoire. Donc la porte de l'armoire bat et tout. Et quand elle monte pour fermer la porte, parce que ça ne va pas, les portes qui claquent, c'est insupportable. C'est ce jour-là qu'elle voit que le cœur d'Inès Dolorès s'est déchiré. Et donc en fait, il y a tout un lien avec le secret, avec les fantômes, avec la mort, oui, bien sûr, et avec cette idée que peut-être, j'espère, l'amour est ce qui arrive à passer au-delà, quoi. L'amour est ce qui reste. Et c'est un peu ce qu'on sent même dans le cœur d'Inès Dolorès, finalement, qui a la sensation de ne pas avoir été capable d'aimer. Mais on se rend compte que ce qui reste et ce qui fait le merveilleux, finalement, c'est l'amour. Et il y a ce lien constant entre le désir, l'amour et la mort que j'ai essayé de tisser.
Elle est héritière aussi... Cette femme très sage, cette postière très sage, elle est héritière de femmes passionnées.
Oui, elle est héritière de femmes passionnées et sa grand-mère est arrivée en France pendant la retirada. Donc, elle venait d'Espagne, à pied, elle a marché et elle était enceinte pendant cette longue marche. Elle a accouché en route, donc après elle avait la mère de Lola au sein. Et dans le dos, elle était chargée des cœurs des ancêtres, des cœurs de ses ancêtres. Et chacune de ces femmes, donc, qui a précédé Lola, oui, a marché. C'est toutes des femmes dont le monde a écorché les pieds. Et elle est la dernière, et elle est boiteuse. Et elle le dit à un moment donné, comme s'il avait fallu une boiteuse pour arrêter l'exil, pour arrêter pour permettre en fait de s'enraciner quelque part enfin et cesser de marcher, quoi.
Pour retrouver pied, simplement.
Pour retrouver pied. Et moi aussi, enfin en tout cas la romancière aussi est boiteuse, puisque la romancière elle a un pied dans le réel et un pied dans la fable, quoi. Et la figure même de la boiteuse, c'est très intéressant parce que c'est celle qui passe le seuil, la boiteuse. Donc en passant le seuil, il y a cette bascule comme ça de la hanche. Et c'est celle qui normalement, ou même le boiteux, hein, je dis celle, mais ça peut être au masculin, c'est celui qui fait le lien entre la mort et la vie. C'est celui qui peut passer de l'un à l'autre. Donc c'était intéressant de travailler cette boiteuse-là. Puis il y en a une autre, mais elle est cachée encore derrière, la première boiteuse en noir et blanc de la photo.
Beaucoup de choses hein, encore qu'on pourrait... Continuez à explorer tous ces visages aussi. Puis vous avez parlé au début hein, de ce village ou de ces villageoises qui sont là à papoter, à discuter, qui sont aussi témoins un peu de tout ce qui peut se passer. Vraiment un roman très riche. Eddy Harris, quand on écoute Carole Martinez parler des roses fauves, qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça éveille en vous ?
Bon, beaucoup de choses. Déjà, c'est fascinant cette histoire, mais sa façon de raconter cette histoire aussi. Des choses que je ne suis pas capable du tout de faire sur mes livres parce que je pense que Mississippi Solo est très très simple. C'est juste un mec dans un canoë et qui fait un long voyage. Mais pas beaucoup plus que ça.
C'est ce que vous dites. Mais on va en parler. Très bien. Bon, ce qu'on va faire simplement, c'est écouter un extrait. C'est Stéphanie Gallet qui va nous lire un passage des Roses Fauves publié chez Gallimard.
Je suis la gardienne d'une histoire que j'ignore et qui ne m'appartient pas. L'origine de la douleur s'est perdue, et il ne reste qu'un prénom et l'héritage inquiétant et silencieux qui repose dans mon armoire. Toutes ces Dolorès sont-elles condamnées à reprendre le flambeau de la douleur, à devenir la génération précédente dès que celle-ci tombe, comme une ligne de fantassins sur un champ de bataille, toujours à la même place dans le combat, destinées à être les mêmes pièces sur le même échiquier de cette douleur inconnue est tellement lointaine que seul notre prénom en garde la trace, une trace qui se multiplie de génération en génération. Même mes sœurs ont donné ce prénom à l'aînée de leur fille. Avec le temps, il y a toujours plus de Dolorès, comme si le nombre pouvait diluer la souffrance. et nul ne se pose jamais la question du début. Comment soigner une douleur fantôme ?
Oui, cette fois-ci, c'est bien la rose pourpre du cœur chantée par Mathieu Chédid au pied de la lettre avec Carole Martinez. Il s'agit bien, dans le roman de Carole Martinez, des roses fauves, publiées chez Gallimard. Voilà, rose pourpre, rose fauve. Et puis, il y a aussi Eddie Harris qui est avec nous pour Mississippi Solo aux éditions Liana Lévy.
Au pied de la lettre, RCF.
Il y a 30 ans, sur un coup de tête, un jeune homme décide de descendre le Mississippi à canoë. Présentez-nous un peu, Eddie Harris, ce fleuve, le Mississippi.
Ben, le fleuve, tout le monde connaît, c'est le mythe des États-Unis, c'est le mythe du Mississippi, c'est un truc extraordinaire. 4000 km de long, qui change énormément depuis le début jusqu'à la Golfe du Mexique, jusqu'à la Nouvelle-Orléans où j'ai arrêté. C'est une petite fleuve qui grandit au fur et à mesure et finalement c'est un truc fascinant. C'est un peu un métaphore pour les États-Unis dans mes yeux. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai adoré depuis très jeune. J'ai grandi pas loin du fleuve et quand j'ai
vous habitiez à Saint-Louis.
À Saint-Louis.
Qui est à peu près à mi-parcours hein, entre la source.
À peu près, oui.
Et la Nouvelle-Orléans.
Et la Nouvelle-Orléans, oui. Et quand j'étais jeune, et toujours maintenant, quand j'ai besoin de me ressourcer, je pars pour le Mississippi.
Là, quand vous partez à l'âge de 30 ans, à peine 30 ans, c'est presque une sorte de défi, de colère qui vous pousse, en tout cas, de besoin de vous prouver quelque chose.
Besoin de prouver plus que colère, oui. C'était... Quelques années après, j'avais décidé d'être un écrivain sans un succès, pas du tout du succès.
C'est Carole Martinez hein, qui, au premier roman, a un succès phénoménal.
Mais j'avais 40 ans. Hein.
Donc, j'ai décidé de faire quelque chose, soit de me tuer, soit de changer ma vie. Comme je n'avais jamais fait du canotage avant, ou presque jamais, et surtout pas dans un fleuve comme le Mississippi, j'étais sûr et certain qu'il y aurait probablement une mauvaise ending. Mais finalement, je ne suis pas mort et j'ai décidé d'écrire ce livre et qui a changé la vie. Donc, si je cherchais quelque chose...
Parce que ce livre-là, lui, a connu du succès.
Oui, oui, mais...
Et c'est le début de votre carrière.
Le succès de Carole, mais c'est toujours en vente aux États-Unis. C'est un peu bizarre qu'un livre qui a 30 ans d'âge est toujours en vente, quelque part.
Bah, vous nous avez dit tout à l'heure que le Mississippi n'avait pas changé. Donc, finalement, peut-être vous êtes le témoin de ce message universel.
Pas seulement ça, mais je pense que... Je ne peux pas dire ça avec certitude. Mais je pense qu'à cause de ce livre, il y avait pas mal de gens maintenant qui font... Le Mississippi de la source jusqu'à Nouvelle-Orléans.
Alors, on voit bien dans votre récit, le fleuve, il est à la fois complice et parfois adversaire.
Oui, comme un parent, je pense. Parce que je donne les personnalités au fleuve quand j'écris sur le sujet. Et parfois, il est un ami, parfois un adversaire, parfois quelqu'un qui m'aide, parfois plusieurs plusieurs personnalités dans le même personne, comme mon père, en fait. Parfois difficile, parfois bruyant, parfois quelqu'un qui m'a fait peur. Donc je pense que dans le Mississippi, j'ai trouvé une personne que je connais bien et en même temps pas du tout.
Une personne aussi qui est très changeante, hein, vous l'avez dit, du début à la fin.
Oui.
Alors au début, vous êtes face au barrage édifié par les castors, et puis après, c'est plutôt les grandes barges qui transportent des matériaux.
Mais ça, c'est peut-être le plus important avec le Mississippi, c'est qu'il est un petit rivulet au départ, et à la fin, c'est un truc énorme, très très large, très
démesuré,
très profond. 30 mètres de profondeur, et au départ, tu peux traverser le fleuve à pied sans mouiller les chevilles.
Mmh. C'est aussi, durant tout ce parcours, toutes les rencontres que vous racontez dans votre livre, des rencontres où, finalement, les personnes que vous rencontrez se montrent beaucoup plus généreuses que vous ne le pensiez.
Entre la les personnages qui sont dans le fleuve, le fleuve lui-même. Je pense que le plus important, c'est les gens que je passe. La nature, c'est très important, c'est très puissant, mais les gens que je croise le long de ce voyage, c'est ça qui fait le voyage et qui fait aussi le pays. Et c'est ça qui était le plus étonnant pour moi aussi.
Parce que vous avez trouvé cet accueil, cet encouragement.
C'était étonnant. Et quand on me pose la question, qu'est-ce qui a changé? Une chose qui n'a pas changé, c'est la générosité des gens.
Et l'accueil. Pourtant, alors, vous êtes content de rencontrer les uns les autres, mais par moments, vous êtes jaloux un peu de votre solitude. Je préfère sa compagnie, celle du fleuve, à celle des hommes.
Oui. Dans le livre que j'écris maintenant, je viens de terminer un passage qui parle de mon envie et mon besoin de solitude. Je suis un solitaire. Mais je sors de cette solitude, parfois, de rencontrer des gens, d'avoir des rencontres pour parler de la vie. Et tout de suite après, je suis content de retomber dans ma petite cave et être heureux.
Mais sur ce parcours, à un moment, justement, quand vous passez à Saint-Louis, c'est Tommy, votre frère, qui s'impose d'une certaine manière, qui veut monter avec vous dans le canoë.
Oui.
Ah, ça se passe pas très bien là.
Moi, ça dépend. Ça passe très bien pour moi. Parce qu'après une journée, il ne pouvait plus. Donc il sort du canoë à Cape Girardeau et
c'est fini.
Il m'a dit, appelle notre mère, c'est ton truc, c'est pas le mien, tu continues tout seul, basta, je suis mort. Mais je ne pouvais pas refuser. Quand il a demandé d'être dans le canoë avec moi, c'est mon grand frère qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours personnel et je ne pouvais pas dire non. Mais j'étais hyper content quand il a
raccroché. Et on sent aussi, hein, par moments, vous-même, vous êtes un peu découragé. Et même quand vous arrivez donc à Saint-Louis, vous dites, je vais peut-être m'arrêter là.
Oui, ça c'était pas le but depuis le début, mais après, peut-être à mi-chemin entre Minnesota et Saint-Louis, j'étais sûr que j'allais quitter le fleuve. C'est dur. La solitude, même si je suis un solitaire, la solitude était difficile de camper chaque nuit.
Parfois sous la pluie.
Souvent dans la pluie, mais aussi parfois dans les endroits un peu difficiles et parfois un peu dangereux. Je pense, et j'avais un mal à l'épaule, donc je pense qu'après à Saint-Louis, j'allais quitter le fleuve et dire, ok, basta, j'ai essayé et ça suffit. Mais une fois j'arrive à Saint-Louis, les gens qui disaient que c'était une idée idiote, ne pas le faire, là maintenant ils commencent à dire « Ouais, c'était super ce que tu fais ». Et là je ne pouvais pas quitter. Pas seulement le frère qui voulait venir avec moi, mais toutes les autres personnes qui ont été décourageants au départ, maintenant ils encouragent. J'étais un peu piégé, donc j'ai décidé de continuer et je suis très heureux que je l'avais fait.
Je devenais un homme fleuve plus assuré sur l'eau que sur terre.
Oui, il y a un épisode qui termine le livre, qui n'est pas dans le livre. À la fin du voyage, je suis devenu agressif parce que je ne voulais pas quitter le fleuve. Je suis arrivé à Nouvelle-Orléans, oui, c'était sûr, le voyage était pour moi terminé. Mais dans mon esprit, j'étais toujours sur le Mississippi. Et quand les gens me parlaient, je ne voulais pas être en compagnie d'autres personnes. Je voulais être toujours dans mon petit canoë, sur le Mississippi, en faisant des trucs un peu blasé.
Vous en tirez aussi cette leçon, une leçon de vie. Hein. La vie, c'est ce qu'on en fait.
J'ai dit ça ?
Oui.
Oh la vache. Oui, je pense que la vie, c'est ça. C'est ce qu'on fait tout le temps qui change. Aux États-Unis, maintenant, avec Trump dans la Maison-Blanche, on parle souvent d'être dans un point d'inflexion qui veut dire que on va tout va changer après ce moment. Et je pense que tout change après chaque moment dans la vie. Il faut faire des choses, il faut vivre des choses. Et c'est ça qui fait la vie qu'on va réfléchir à quand on est prêt à mourir.
Vous écrivez aussi, et il faut évoquer ce passage-là, parce que c'est un de vos personnes qui vous aide à démarrer, que vous partez d'un point où il y a peu de Noirs et vous arrivez à la Nouvelle-Orléans où il y a des Noirs qu'on n'aime pas vraiment. Hein, et vous écrivez à un moment, je m'étais promis au départ que la question raciale n'en serait pas une. Je vivrais sur le fleuve comme j'ai toujours vécu, à savoir qu'être noir ne compterait pas dans ma réussite ou mon échec éventuel. C'est une question qui taraude l'Amérique, surtout en ce moment.
Pas seulement maintenant, mais c'est une question qui identifie le pays. C'est une partie de l'identification de notre pays. Et moi, personnellement, je ne veux pas vivre avec ça sur mes épaules, de vivre comme un noir. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, de vivre comme un noir. Je veux vivre comme Ediaris et basta, et m'amuser quand je veux, comme je veux. Et cette fardeau n'est pas une partie de mon âme. Donc j'ai quitté, on peut dire peut-être que j'ai quitté le monde des Noirs pour vivre autre chose. Mais quand je suis aux États-Unis, c'est flagrant, c'est dans le on est en face de ce racisme en permanence. Et surtout maintenant, je pense que les choses, on peut parler d'un point d'inflexion, peut-être on est à un point où les choses vont changer, définitivement. Sinon, le pays va s'écouler en ruine.
Carole Martinez, vous avez lu Mississippi Solo.
J'ai adoré. J'ai trouvé aussi beaucoup de relations entre l'écriture et le fait d'affronter ce fleuve. J'ai trouvé que, d'ailleurs, à tout début, il y a une petite interrogation, canoter, écrire. Et il y a comme quelque chose de au tout début, vous en parlez, vous êtes très, très rapide là-dessus, mais on voit le petit garçon qui trempe ses orteils dans le Mississippi. Et c'est vrai que déjà, nous, vous nous mettez dans cette situation-là de quand on trempe les pieds dans l'eau, comme ça, de se laisser partir en rêverie. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la rêverie. Et cet enfant qui rêve, mais qui peut pas aborder le Mississippi, il est encore trop petit, il attend d'être au milieu de la vie. Alors, votre milieu de vie, en revanche, vous le mettez vraiment tôt. Parce que 30 ans, moi, je trouve que pour un milieu de vie, c'est tôt. Et le moment des bilans et tout. Et cet homme qui, finalement, attend 30 ans pour affronter ce fleuve qui le fait rêver depuis son enfance et même qui lui provoque des cauchemars, parce que c'est aussi le Styx. Quand il s'agit de le traverser, il en crie la nuit. Enfin bon, et là vous partez, mais vous partez, vous savez pas faire de canoë, vous avez deux autorisations, presque. Vous avez, je sais plus comment il s'appelle, le danseur de claquettes, Robert.
Robert,
le danseur de claquettes, qui vous donne l'autorisation. Mais comment vous donnerez l'autorisation d'écrire ? C'est vraiment ça, c'est-à-dire non, il faut y aller. Et l'échec, eh ben, finalement, c'est pas grave. Il faut
l'essentiel,
tenter les
c'est
choses. L'essentiel, c'est de
aller.
Le faire. Et oui. C'est d'y aller. Et oui, ça sera peut-être dur si jamais c'est un échec. Mais et puis, c'est même plus une autorisation, ça devient un ordre de Robert. Et puis, vous avez cette femme dont j'ai oublié le nom parce que je suis pas très douée pour retenir les noms propres, qui a un gros, je sais plus comment elle s'appelle, qui vous accompagne.
Robinovitch.
Voilà. Ouais. Robinovitch qui vous trouve vous trouve le canoë. Parce qu'en fait, Eddie Harris n'a pas un sou à ce moment-là. Mais vraiment, c'est, donc il doit se débrouiller avec ce qu'il a. Et puis voilà. Et puis au début, on a vraiment l'impression qu'il va abandonner tout de suite, parce qu'il est dans un état déplorable. Tout de suite, il a les engelures.
Il n'a pas les bottes.
Il perd ses gants. Dès les premiers jours, il perd ses gants. Et en fait, il est parti trop tard. Donc, il est parti, il fait trop froid. Mais en fait, il fait tout de travers. Et à un moment donné, il pense qu'il va abandonner. Et finalement, il comprend que non, il n'abandonne pas. Il faut s'abandonner, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et le moment où il décide de s'abandonner au fleuve, ça, le passage est absolument magnifique. Ce moment où...
On arrête de se battre.
On arrête. OK, il est plus fort. Le fleuve est plus fort. Le fleuve est magnifique, le fleuve. Mais
les roses fauves aussi sont plus fortes.
On se laisse aller au fleuve. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se battre constamment, mais on se laisse aller. Et il s'abandonne non seulement au fleuve, mais il s'abandonne à cette nature, à cet esprit sauvage. Moi, j'adore Into the Wild. Et je trouve qu'il y a quelque chose de Into the Wild. Vraiment, mais, et dans tout, parce qu'en plus, non seulement vous vous abandonnez à cette nature, à cette force-là, mais vous vous abandonnez aux gens que vous rencontrez. Et ça, c'est super beau. Comment, Émilie, oui, qui à un moment donné devient, parce qu'à un moment donné, en fait, il croit qu'on lui a volé son canot, son canoë. Émilie dit, il n'y a pas de vol ici. Il n'y a pas de vol ici. Et en fait, elle va devenir une sorte de fleuve et l'embarquer. Et vous êtes embarqué comme ça par des hommes et des femmes. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et il y a aussi un passage, et après j'arrête, mais sublime aussi, le passage où tout d'un coup vous dites, c'est dimanche. C'est sûr, c'est dimanche, parce qu'il y a cette traversée de l'Amérique, il y a ce traversée de lui-même, ouais. C'est-à-dire que lui-même, il prend cette faille, ce Mississippi devient une faille en lui, et c'est, voilà, il devient, il enlève tout ce qu'il y a en trop et tout, et il devient lui-même, c'est magnifique, il y a cette traversée de l'humanité, cette traversée de l'Amérique, et il y a aussi une célébration, et il y a aussi quelque chose d'extrêmement spirituel. Je trouvais voilà. Que c'était vraiment... Wow.
De ces moments très heureux, vous écrivez, qui parlent à mon âme.
Oui, mais il y avait plusieurs moments comme ça hein, qui parlaient à mon âme.
On va écouter un extrait lu par Stéphanie Gallet. Le Mississippi, Mississippi Solo, c'est publié chez Liana Levy.
Le Mississippi est accablé des fardeaux de la nation. Large, à Saint-Louis où j'ai grandi, le fleuve coule dans ma mémoire, brun et lourd et lent, oisif en apparence, mais toujours occupé par des barges et des remorqueurs, toujours au travail comme mon père, et toujours en mouvement, terrible et intimidant. Tout petit déjà, je regardais le fleuve, trop jeune pour comprendre que les barges chargées de céréales et de charbon ne sont pas le seul fardeau du Mississippi, qu'il charrie aussi péché et rédemption, rêve, aventure et destin. Enfant, je craignais le fleuve et le respectais plus que je ne craignais Dieu. Adulte, je le crains davantage encore. Le Mississippi, puissant, boueux, dangereux, rebelle et pourtant fort et paternel. Le fleuve s'est emparé de mon imagination dans ma jeunesse et ne l'a jamais lâché. Aussi loin que je me souvienne, je voulais en faire partie, autant qu'être un héros, robuste, courageux et infatigable comme lui, occupant une telle place dans la vie et le monde qu'on ne pourrait m'ignorer ou m'oublier. Je m'asseyais sur la digue et regardais les eaux troubles descendre pesamment vers la mer. Et je rêvais des villes et des cités traversées par le fleuve, des fermes, des champs et des ponts, de la magie des débris ramassés ici, déposés là, et des autres rivières en chemin, Ohio, Illinois, Arkansas, embarquant tout pour un magnifique voyage jusqu'au golfe du Mexique et au-delà.
There's an old man called Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old man River, that old man River, he must know something. But don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and damn that planter, me soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we swear.
Eh oui, Old Man River de Paul Robeson, au pied de la lettre aujourd'hui avec Carole Martinez pour Les Roses Fauves, publié chez Gallimard, et Eddie Harris pour Mississippi Solo aux éditions Liana Levy.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Héning.
Et oui, on va donner une seconde chance au roman paru durant le premier semestre 2020, des livres qui sont sortis en plein confinement, alors que les librairies étaient fermées, des romans qu'on ne peut pas passer à la trappe pour autant. Bonjour Samuel Aubin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, vous avez écrit Istanbul à jamais, paru chez Actes Sud, c'était en plein confinement, le livre est sorti.
Oui, quelques jours avant en fait, voilà. Une petite semaine avant le confinement, donc effectivement, il a eu du mal à rencontrer à ce moment-là son public.
Voilà. Mais il va encore le rencontrer maintenant. Istanbul à jamais. Allez, racontez-nous un petit peu. C'est à la fois un regard très documenté sur Istanbul et en même temps un roman que vous avez voulu écrire. Allez, Istanbul dans la course.
Alors voilà, Istanbul à jamais, ça commence le matin du 16 juillet 2016. Le lendemain de la tentative de coup d'État en Turquie. Et ce matin-là, Simon, qui habite à Istanbul depuis quelques années avec sa petite famille, reçoit un texto de son ami Ferhat comme quoi Anouche a disparu. Alors voilà, Ferhat et Simon, dès cette matinée-là, partis dans les rues d'Istanbul à la recherche d'Anouche. Et c'est l'occasion, en fait, de revenir en arrière et d'essayer de savoir mais qu'est-ce qui a pu faire pour en arriver là que Anouche n'est plus là. Alors on revient un an en arrière sur les élections législatives qui avaient ébranlé le pouvoir AKP du président Erdogan, avec un fort score du parti HDP, qui est le parti qu'on dit pro-kurde, mais qui est en fait un parti qui soutient et qui veut défendre toutes les minorités en Turquie. Et puis on revient même beaucoup plus loin, jusqu'à l'histoire du génocide des Arméniens en Arménie, etc. Voilà, alors Simon, lui, est un formateur, il est réalisateur, il est formateur en documentaire. C'est ce que
il
je
ressemble
faisais,
un
moi,
peu,
quand...
hein.
Voilà, exactement. C'est ce que je faisais, moi, quand j'habitais à Istanbul pendant ces années-là. Alors oui, Simon, ça n'est pas Samuel Aubin. En même temps, effectivement, il y a un côté miroir et je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu là-bas ces années-là pour raconter l'histoire de Simon et de ses proches. Qui rencontre voilà beaucoup la vie toute la diversité de la vie de la Turquie et d'Istanbul à travers des projets de films documentaires qui l'accompagnent.
Mmh. Istanbul, la ville, c'est aussi presque un personnage de votre roman. Vous écrivez un moment, la tristesse d'Istanbul est infinie et sublime.
Mmh. Ben oui. C'est un personnage. C'était même en cours d'écriture quelque chose. C'était un fil intéressant à tenir puisque à la fois Istanbul devenait un personnage. Il s'agissait pas non plus d'en faire une personne. Et c'est ce fil que j'ai essayé de tenir. On peut faire facilement devenir Istanbul une femme. C'est quelque chose qui vient assez facilement. Là, il s'agissait d'en faire un personnage, mais que ça reste bien une ville.
Merci Samuel Aubin. Comment vous avez vécu, vous, le confinement ?
Alors le confinement, on était avec ma petite famille dans notre appartement à Lyon, du jogging sur le balcon qui a débouché sur une tendinite, trop de sport.
Aïe aïe.
Et puis le début d'écriture d'un nouveau roman, accompagner mon fils dans son école à la maison et trouver une voie qui soit plutôt joyeuse dans ces difficultés qu'on rencontrait, c'était ça.
Mmh. Ben écoutez, puisque le prochain livre est en route, vous l'écrirez et nous on le lira volontiers. Istanbul à jamais, c'est paru chez Actes Sud. Merci Samuel Aubin.
À vous. Au revoir.
Au pied de la lettre, RCF.
Et c'est l'instant poésie avec Stéphane Bataillon, toujours fidèle au micro au pied de la lettre.
Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane, vous nous proposez... Ah ben je vous écoute d'ailleurs.
Eh ben je vous propose de vous emmener sur un autre fleuve, un fleuve plus à l'est, grâce à François Coffinet, qui est acteur et poète, et qui vient de sortir un nouveau recueil de poèmes, « Je suis dans la maison du songe ». Et donc un fleuve, on ne sait pas trop où il est, sûrement pas près du Mississippi, puisque les poèmes sont traduits en bulgare et en français, et je vous entraîne à sa découverte.
On vous suit.
Fleuve, plus silencieux que la corolle. À peine une goutte d'eau achève-t-elle sa course, qu'une autre vient la rejoindre. Entre-temps, des cassures de lames et des frottements de peau. Être frêle, trait de fils. Il lève la poussière sur les chemins. Sa trace parfois le précède de peu. Il exerce son œil contre la nuit, la rend très soyeuse, se mêle à l'écume, se délie. Déjà lorsqu'il était enfant, Obsidienne la hantait. « Belle, lui avait-il dit, je deviendrai l'eau dont tu t'abreuves. »
Voilà, un poème au fil de l'eau peut-être, au fil de l'eau. Comme ça on peut dire. Un beau recueil aussi.
Donc beau recueil qui rassemble trois recueils précédemment parus en fait, sous une nouvelle édition. Donc c'est Francis Coffinet, « Je suis de la maison du songe », c'est publié aux éditions Unicité, dans la nouvelle collection « Le vrai lieu ».
Voilà, un livre à découvrir, un recueil à découvrir et un poète aussi.
Tout à fait.
À découvrir. Merci Stéphane.
Merci.
Et puis j'ai aussi envie de vous demander, Eddy Harris, vous êtes fils du fleuve Mississippi, mais vous parlez un excellent français. Comment vous avez pu apprendre notre langue?
J'avais commencé quand j'avais 12 ans à l'école. Au fur et à mesure, ça vient. Et maintenant, j'habite dans un petit village en Charente, à côté d'un fleuve. Non, pas un fleuve, mais une rivière. Et je baigne dans le français tous les jours.
Voilà, en baignant dans le français, voilà comment on y arrive. Carole Martinez, votre livre aussi, Les Ronces Fauves, c'est aussi un roman ou un livre sur l'écriture, sur la littérature?
Par
la présence de cet auteur, bien
exactement.
Dit, qu'on voit travailler, mais en même temps, c'est toute une réflexion autour de l'imaginaire que vous distillez à travers les pages.
Comment est-ce qu'on bricole nos souvenirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais finalement aussi comment est-ce qu'on bricole un roman, quoi. Comment est-ce qu'on fait feu de tout bois presque, et tout peut être inspirant. Alors malheureusement, moi, je suis pas partie en canoë sur le Mississippi. Je pense que j'en aurais pas eu j'ai ni le courage ni la force.
Ou l'inconscience, hein, parce qu'il y a
une part d'inconscience.
Oh, complètement, oui.
Il y a une part d'inconscience, mais magnifique, quoi. Finalement, je pense que cette idée, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, d'arriver à s'abandonner aussi quand on écrit, c'est aussi important, et qu'il y a quelque chose de l'ordre du flux, du courant qui passe aussi quand on écrit. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut endiguer tout ça aussi en se relisant, vous voyez. Mais il y a cette idée de quelque chose de très vif, de l'ordre du désir qui passe à travers la langue et que la langue emporte et ligote à la fois. Donc je voulais aussi parler de tout ça. Comment est-ce qu'on invente, comment est-ce qu'on peut avoir le désir d'écrire, comment parfois finalement il peut nous abandonner aussi, comment est-ce qu'on fabrique nos personnages avec n'importe quoi, et comment parfois il arrive même qu'il nous échappe. Et ça, c'est nous qui parfois pouvons nous trouver enfermés dans le livre, et le personnage, lui, il nous a échappé. Et j'aime cette idée, quelque chose un petit peu fou, voilà, quand on écrit.
Mmh. Eddy Harris, vous aussi, alors Mississippi Solo, c'est le récit de votre parcours, de votre voyage, mais après, il y a eu d'autres livres, hein, Harlem ou encore Jupiter et moi, hein, qui sont là encore édités chez Liana Levy, qui sont disponibles. Là, cette fois-ci, il y a une part d'imaginaire que vous instillez davantage dans vos romans, mais toujours à partir du réel.
Moi, ils sont tous des histoires réelles. Mais Mississippi Solo, je pense que la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que je ne savais pas du tout comment construire un roman. C'était un voyage, je me suis lancé dans le voyage, je me suis lancé dans l'écriture après, parce que je n'avais pas fait ce voyage pour faire le livre, c'était juste pour faire le voyage. C'était l'impression des livres, du voyage qui m'a forcé de faire le livre après. Et en écrivant le livre, j'ai fait uniquement ce que j'ai fait. J'ai écrit ce que j'ai fait dans le voyage, ce que j'ai senti et les gens avec qui je parlais. Mmh. Ce reste assez simple, ce livre.
C'est assez simple, mais en même temps, c'est de la littérature. C'est-à-dire que vous transcrivez ce que vous avez vécu. Vous le magnifiez peut-être, vous le rendez...
Non, je ne manie pas. Je pense que j'ai écrit exactement les choses qui, ouais. Qui se sont arrivées de manière assez simple. Je pense que le feeling, le mystère est dans la façon que les histoires vraies sortent de la bouche du stylo de l'écrivain. Mmh. Ça fait une partie de mystère. Mmh.
Le mystère, alors, Carole Martinez, dans vos romans, le mystère, il est bien présent, l'imaginaire, et en même temps, vous écrivez, j'avoue que ce qu'on écrit dans un roman est toujours un peu vrai. Alors, c'est quoi cette vérité de l'imaginaire ?
Mais en fait, c'est souvent des tours et des détours pour dire des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, moi, je tords les choses pour arriver à en parler. Donc, je sais pas, je pense que oui, voilà, j'ai beaucoup de mal, moi, avec la réalité vraie, quoi. J'aurais beaucoup de mal j'aurais peur de me tromper, j'aurais peur de pas dire vraiment ce que j'ai vu, j'aurais peur d'être tout de suite embarquée dans quelque chose que j'imagine presque en le vivant. Je serais une très mauvaise journaliste. Je serais toujours en train de mêler la rêverie et le réel. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à ça. Mais il y a toujours du vrai parce qu'en fait, on travaille qu'avec soi et ce qu'on connaît. On travaille avec ses rêves, on travaille avec ses sensations, avec ses sentiments, on travaille avec son corps. Donc oui, on travaille les autres personnages avec soi. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on essaye aussi, à travers l'écriture, d'être l'autre. Mais on essaye d'être l'autre avec soi-même,
ce qu'on est.
Avec ce qu'on est.
Et du coup, les romans, je vous reprends aussi dans votre livre, page 127, les romans ne mettent pas plus à l'abri que les autobiographies, ils exposent.
Et ben oui. c'est-à-dire que Alors, le principe, c'est une autobiographie. Est-ce que c'est toujours si vrai que ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'autobiographie des choses de l'ordre du bricolage et du mensonge, quoi?
Pas de mensonge, c'est le début de l'histoire, pas de mensonge. Il faut réécrire des choses qui sont vraies, mais manipuler peut-être pour...
Dans l'écriture, pour les rendre accessibles,
oui.
Peut-être,
quand pour les partager. Quand le Mississippi devient un monstre et une créature dans la métaphore, il devient quelque chose de...
Oui.
Merci à tous les deux pour vos livres d'abord et puis pour cette émission. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Les Roses Fauves de Carole Martinez, c'est publié chez Gallimard. Mississippi Solo et Diaris, c'est chez Liana Lévy. Et puis aussi l'édition en poche de Harlem et Jupiter et moi, qu'il faut lire. Merci à Stéphanie Gallet, Stéphane Bataillon, Samuel Aubin. Merci à Pierre-Henri Paget qui était à la réalisation de l'émission. Allez, au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui. On n'a pas parlé de Mark Twain, on aurait dû quand même. Celui qui disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Merci à vous.
Merci beaucoup.